Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Radio Grand Papier, votre rendez-vous mensuel de bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Bonsoir Johanna.
Bonsoir.
Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Stéphane.
Bonsoir.
Nicolas.
Bonsoir.
Voilà, bienvenue et bienvenue chers auditeurs. Voilà. Alors aujourd'hui, seconde heure d'émission qui sera consacrée à des auteurs qui ont notamment publié chez Manolo Sanctis, mais chez d'autres éditeurs aussi. Donc on accueillera Thomas Gilbert Léoni et Thomas Mathieu. Ça c'est pour la seconde heure d'émission. Et la première heure d'émission, elle consacrée aux rubriques habituelles, donc principalement cette fois-ci rubrique nouveautés autour du paysage. Et puis, nous allons commencer en revenant sur le palmarès d'Angoulême. Voilà, on avait parlé un peu d'Angoulême en janvier en vous présentant des structures et des auteurs sur lesquels on voulait attirer votre attention. On espère que vous avez été nombreux à les saluer, acheter leurs livres et leur faire des bisous. Et puis voilà, on voulait revenir aussi donc sur le palmarès un peu comme on l'avait fait il y a un an. Alors, palmarès dans lequel il y a déjà toute une série de livres dont on vous avait parlé, preuve s'il en est qu'évidemment le Festival Angoulême oriente fort ses choix en fonction des livres qu'on chronique, évidemment.
C'est certain.
Donc, ça, pour ça, il y a vraiment plus de doute, hein, puis qu'on retrouve, on retrouve l'Astérios Polype, on retrouve le Gaza 1956. Donc, qui est le prix Regard sur le Monde, l'Astérios Polype qui est le prix du jury, pardon.
Et Grand Prix de la critique.
Et Grand Prix de la critique, merci Nicolas. Le prix de l'audace, on avait loué l'audace à l'époque des Nosseurs de Brecht Evans dans cette même émission. On avait parlé de la révélation du Lilus, non, on n'avait pas parlé de la révélation. Parce qu'elle avait
on
déjà
avait
pu...
parlé du premier plus voilà. Tôt, je pense, à la première émission.
On avait parlé du premier plus tôt, on avait parlé de trop et trop n'est pas assez, mais par contre pas comme d'une révélation, vu qu'on sait que ce n'est pas une révélation. On savait qu'elle avait déjà publié avant chez d'autres très bons éditeurs. Donc voilà, peut-être alors s'attarder du coup sur des bouquins dont on n'a pas parlé. Alors notamment Le Fauve d'Or qui est sorti en janvier, qui était la date janvier 2010, qui était notre première émission. Il nous a échappé à ce moment-là. Donc qui est 5000 km par seconde, sorti aux excellentes éditions Atrabile. Alors, je crois que Johanna, toi, tu voulais vraiment nous en parler.
Non, j'ai juste vraiment aimé. C'est une différence. Non, mais je trouvais que ça se lisait tout seul, qu'il y avait différentes atmosphères. Au début, ça se passe en Italie, puis après, ça se passe plutôt dans les pays du Nord. Il y a vraiment des choses au niveau de la mise en couleur qui sont très, très belles. Je trouvais le récit magnifique. Et comme je ne l'ai pas sous les yeux, je suis un peu perdue.
Ouais, un récit d'acte manqué que je trouvais super puisque c'est l'histoire d'un couple d'adolescents qui n'est pas apparemment sorti ensemble très longtemps et qui va se séparer, avoir une rupture au moment où la demoiselle décide de partir comme jeune fille au pair ou étudiante en Scandinavie. Lui, de son côté, va partir plutôt en Égypte pour devenir archéologue et on va suivre ce rapport, donc ces deux personnages qui vont un jour se retrouver de nouveau liés au travers d'une actualité et va se passer une sorte de discussion sur qu'est-ce qui est raté, pourquoi. Et finalement, c'est assez touchant parce que tout est en retenue, il n'y a pas vraiment de scène dramatique forte. Mais c'est ce parcours et cette façon d'avoir ces personnages qui vont se retrouver un jour comme une sorte de bilan ou de constat de l'échec quelque part d'un couple qui aurait pu être mais qui n'a jamais eu, qui n'a jamais existé. Et je trouvais ça en plus l'approche très belle parce que la façon dont il aborde le récit est assez touchant parce qu'il en... Il sombre pas dans le pathos, dans le mélodramatique, et ça c'est très beau.
La grosse force de ce bouquin, c'est quand même le travail de l'ellipse, puisqu'il arrive à centrer, à réduire quelque chose comme 20 ans de vie en quelque chose comme 6 panneaux, puisqu'on est six chapitres qui sont très condensés dans des unités de temps. Donc on va suivre l'arrivée de cette jeune fille dans le bâtiment, ensuite son arrivée à un autre endroit après la rupture, etc. Donc il y a vraiment des sautes de temps qui sont assez dont parfois on n'identifie pas très bien si elles sont d'un mois, d'une semaine ou de plusieurs années. On le découvre au fur et à mesure du récit qu'en fait il y a quand même pas mal de temps qui sont ellipsés, hein. À un moment donné on a 8 ans d'ellipse par exemple qui se font avec un raccord qui semble quasiment naturel. Et donc ce travail-là, il est très très fort. Très grande unité de temps pour chacune des scènes. Donc parfois, on a droit à une scène qui se déroule sur une après-midi ou une soirée. Dans le plus long, on a quelque chose qui se déroule sur un jour de maximum. Donc, et ça suffit pour être en phase avec ses personnages sur 20 ans, ce qui est quand même assez, assez puissant pour un récit. Alors au niveau, puisqu'on peut parler un peu du dessin, au niveau du dessin, on a travaillé au pinceau rehaussé avec quelque chose, un dessin au pinceau très dans la masse, donc on a des nuages qui sont donnés, qui donnent quelque chose, un travail très impressionniste, très de la touche comme ça, et rehaussé au pinceau plus net pour arriver à sortir des détails qui fonctionnent très très bien, avec des ambiances colorées très contrastées entre les moments de l'Égypte, des moments qui sont en Italie, d'autres qui sont en Norvège par contre, etc. Et alors le truc qui m'a frappé aussi par rapport à ce bouquin, c'est qu'on est vraiment une séparation entre le dessin et l'image qui est très fort, puisque c'est vraiment le texte qui est un texte très très bien écrit, donc qui permet vraiment de donner en très peu de mots un maximum d'informations. Donc on a une économie de l'écriture mais qui s'accompagne d'une efficacité de l'écriture c'est elle qui nous donne la perception du temps, en fait, qui nous fait comprendre ces fameuses ellipses, parce que d'autre part le dessin, lui, avec son côté un peu vaporeux, nous entraîne vraiment dans les méandres de l'image et du présent, lui, du présent des scènes, des ambiances, etc. Donc le travail du dessin et de l'image travaille à blinde, et donc on retrouve deux forces de la bande dessinée en général qui sont le rapport texte-image qui ici est vraiment très très fort travaillé et donne vraiment une pleine puissance au récit, et d'autre part le travail de l'ellipse qui est aussi une des grandes forces de la bande dessinée qui de nouveau ici est employée pleinement. Donc c'est un bouquin vraiment très très réussi.
Magnifique couverture en plus, parce que je trouve que la couverture est absolument superbe avec ses couleurs et puis la scène qu'elle représente, puisque c'est le moment où la jeune femme arrive dans le building, elle va être interpellée par deux jeunes garçons depuis le bâtiment d'en face. Ça capture juste cet instant où la première fois qu'ils vont croiser les regards, le regard, et qu'elle va être interpellée. Et donc l'image.
Mais cette scène derrière les stores est vraiment terrible. Oui, tout à fait. Moi, je rigolais en lisant ça, c'est tellement bien senti.
Oui,
on parlait d'ellipse, c'est vrai que.
Bien senti.
En quelques cases, il fait émerger le couple, et tu dis, ah bah oui, évidemment, on y croit, ça va être une histoire incroyable. Et puis il y a une grosse ellipse, ce couple, c'est fini. Et alors ça recommence après quand elle part, je sais plus, c'est en Norvège ou. Bref, et alors de nouveau une nouvelle histoire commence, et alors tu y crois et tu dis si c'est la bonne, et alors de nouveau il passe tout de suite à la manière dont ça se défait, et tu dis voilà, c'est comme. Enfin, tu y crois toujours, et même quand il les fait vieillir, ça paraît. Les personnages du début, tu t'imagines pas une seconde que tu vas les voir plus vieux, qu'on grossit, qui sont un peu moches, qui n'ont pas forcément réussi, ou. Et puis il te les amène d'un coup comme ça, je sais pas, 15 ans plus tard, et. Et oui, ben c'est comme ça. Enfin, et c'est très bien fait, et les personnages restent toujours d'une justesse assez.
Oui, une scène très forte, justement à la fin, quand ils se retrouvent sans dévoiler le final. Non, pas la course poursuite de voiture, mais dans ce restaurant, puis dans les toilettes de ce restaurant, où il y a quelque chose qui se passe qui est très très fort, très d'une vraie intensité. Dramatique sans être mélodramatique. Enfin, c'est vraiment réussi. Donc moi, je trouve que c'était aussi une excellente surprise, parce que je crois que c'était totalement inattendu de la part des auteurs, de la part des critiques en général. Je pense que personne n'aurait misé sur le bouquin, parce qu'il y avait énormément. Enfin, c'était, je trouve, une assez.
En tant que fauve d'or.
En tant que fauve d'or, oui, tout à fait, parce que je pense qu'il y avait
eux-mêmes s'attendaient plutôt à avoir un prix, genre le prix de la révélation, le prix de l'audace au niveau graphique.
Un essentiel. Et qu'effectivement, là, face à des machines de guerre comme Asterios Polyp ou d'autres, qui étaient. Il y avait beaucoup de grands favoris. Et donc, c'est vrai que c'est une excellente surprise, et pour l'auteur et pour les éditions Atrabile, parce que ça leur permet aussi d'être en pleine lumière, parce qu'ils font un travail qui est quand même assez.
Depuis plus d'une dizaine d'années.
Assez excellent, oui.
Tout à fait. Donc moi, c'est vraiment ça aussi qui me réjouit, c'est cette lumière mise sur cette excellente maison d'édition, comme j'ai déjà dit. Alors, au niveau de la révélation, donc on avait parlé de Trop n'est pas assez il y a plus ou moins 2 mois, mais en fait, il y a un ex-écho avec la parenthèse d'Élodie Durand. Pour ceux qui ont lu le livre, donc c'est un livre qui traite, rappelle-moi Johanna, de
l'épilepsie.
Voilà, l'épilepsie. Et donc surtout
épilepsie, plus tumeur, plus trouble de la mémoire.
Voilà, perte de mémoire et tout ça.
C'était important, on n'en a pas parlé cette année, alors que Dieu sait si nous parlons des albums dans lesquels la maladie est présente.
Justement parce que, enfin moi j'ai lu à l'époque et
chose qui nous échappe.
Je n'avais pas tellement convaincu parce que je trouvais qu'il remplissait tout le cahier des charges très consciencieusement d'une BD un peu d'auteur sur la maladie, donc à la première personne, mais sans forcément trouver une voie particulière ou trouver une manière de renouveler le genre. Autant je trouvais que, par exemple, c'est toujours l'exemple qui me vient en tête, évidemment, le Monster de Kendall, qui trouve un moyen pour faire exploser son sujet, là, ça reste un peu toujours au même niveau en permanence. Il y a des petites inventions visuelles. Tout reste finalement assez, j'allais dire, assez petit, mais assez commun, assez convenu, ou sans jamais forcément surprendre le lecteur.
Alors moi, j'aurais jamais lu cette BD, en fait, hein, parce que d'apparence, l'objet est assez quelconque. Je vais être un peu méchante, hein, mais c'est pas très excitant comme couverture. Et donc, je l'ai lu pour l'émission. Par contre, je l'ai vraiment bien dévoré. Donc, dessin, moi, je suis pas très convaincue à la base par ce genre de dessin. J'ai même pensé... En fait, cette fille a fait des études aux Arts Déco de Strasbourg ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez pointu. J'étais étonnée. J'avais imaginé que c'était pas un auteur, mais qu'elle avait mis en forme un récit, parce que c'est une lettre à sa mère. Et je me suis dit, cette fille s'est mise à dessiner. Et ce livre, c'est tout à la fois, quoi. C'est je me mets à dessiner et puis je raconte cette maladie après coup. Donc j'étais hyper impressionnée parce que je trouvais le récit très sobre et par rapport à ce genre de maladie, je trouvais ça super intéressant. Mais en fait, donc voilà, j'ai eu un regard particulier parce que je pensais que c'était l'unique dessin de sa vie, que c'était ce livre. Mais donc je me suis un peu trompée, mais je trouve que ça n'enlève pas la qualité du récit, le témoignage par rapport à ce qu'elle a pu vivre par rapport à cette perte de mémoire et les incidences que ça a sur sa vie. Je trouvais que c'était très sobre. Elle décrit notamment une opération qu'elle la pose du cadre stéréotaxique, si je ne me trompe pas. Wow. C'est quand même quelque chose d'une violence incroyable, quoi. Elle se fait percer le crâne à coup de... Elle se fait percer le crâne en anesthésie locale avec la perceuse et ensuite les petites vis pour pouvoir avoir une opération très lourde. Et elle décrit le stress que ça peut engendrer et je trouve ça très très bien raconté, en fait.
Il y a une grande efficacité aussi. Moi, je trouve que voilà, au début, je dirais comme Vincent, j'étais pas fort surpris et j'enchaînais les pages et je me demandais un peu. Et puis il y a quelque chose comme ça au fur et à mesure que le récit progresse, vu qu'il y a une perte de mémoire qui vient, qui est assez présente dès le départ, qui donne un peu le tournis à ce personnage. Ce personnage, en fait, perd pied comme ça, face à la réalité, ça devient est prise comme ça dans une sorte de tourbillon et elle ne sait plus du tout vers quoi ça va l'amener. Et en fait, moi, j'ai ressenti la même sensation en lisant le livre, où c'est pas nécessairement une émotion franche et directe qui m'a pris, mais c'est un peu un côté tournis comme ça, où je me demandais aussi, finalement... comment ça allait se terminer, où est-ce qu'on allait être emmené. Et donc je trouvais que là, il y avait une vraie efficacité où j'avais l'impression comme ça d'être pris. Alors j'ai pas senti le casque sur ma tête, c'est pas à ce point-là, mais voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui m'a en tout cas permis sans problème de lire ce bouquin avec un vrai intérêt. Donc voilà, je trouvais ça, plutôt bien aussi. Justement, à l'inverse du Lilleust, dont on parle comme une révélation, alors qu'on sait qu'elle est active depuis un certain temps. Et voilà, ici, moi personnellement, Élodie Durand, je ne la connaissais pas avant. Et donc ici, pour moi, ça ressemble plus en effet à une révélation, avec toute une série d'imperfections dans le récit, à commencer en effet par la couverture. Plutôt un bouquin qu'on n'a pas trop envie de lire. Mais au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose dans le récit, je trouve, et qui demande vraiment à être vu dans d'autres travaux par la suite, quoi. Donc je trouve, par rapport à ça, le prix Révélation est assez bien tapé, je trouve.
Pour les gens qui aiment des témoignages sur la mémoire, du coup, ça m'a fait penser au documentaire de Kore-eda. c'est Without Memory, et c'est sorti en 96. Je voulais mettre des extraits sur le blog, mais c'est impossible de retomber sur des extraits vidéo de ce documentaire. Le nom en japonais, je ne sais pas le prononcer. Mais donc, Without Memory,
c'est bien dommage.
Nous, on a pu le voir une fois à Bruxelles, et donc... Juste vite fait, c'est un homme qui se fait opérer pour une opération très bénigne à l'estomac et qui en fait se retrouve après avoir eu des carences de certaines vitamines avec des troubles de la mémoire qui ont affecté sa mémoire courte à vie. Donc à partir de cette opération-là, il ne fixe absolument plus aucune information. Et donc c'est vraiment un documentaire et donc en plus ce monsieur a beaucoup de mal à faire reconnaître la maladie et les torts que ça lui fait.
Justement, pour revenir un peu sur ma petite réserve de tout à l'heure, peut-être par rapport à ce que tu viens de dire aussi, j'ai l'impression qu'Élodie Durand ne parle que de sa maladie et de son incidence sur elle-même, contrairement à par exemple Kendall, qui ça devient une espèce de bande dessinée sociale sur la société américaine. Et ça me rappelle, c'est une citation, je ne sais plus qui disait ça, est-ce que c'était Raymond Chandler qui disait un polar, c'est forcément un roman social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut un peu pouvoir sortir du cas particulier et dire quelque chose sur la société qui nous entoure. Et j'ai l'impression qu'Élodie Durand, finalement, ne parle que de sa petite, entre guillemets, hein, parce que c'est...
Mais en même temps,
c'est une expérience profonde et douloureuse, mais que ça reste son expérience à elle, et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui se communique énormément, mais de mon vécu personnel en tout cas.
Je me suis dit ça aussi, je me suis dit tiens, elle parle très peu de son rapport à l'extérieur, mais en fait la vérité, je pense qu'elle s'en souvient pas, et que c'est très difficile. Enfin, ce qu'elle raconte, elle a réussi à le reconstruire avec ses parents en leur posant des questions, mais du coup je pense qu'elle a très peu de... Je pense pas qu'elle puisse, à l'inverse de Kendall, qui est tout à fait conscient tout au long de son récit et qui peut tout à fait décrire ce qu'il ressent vis-à-vis des autres. Je pense que pour elle, elle doit avoir très peu d'informations. Parce que quand elle dit d'un coup, je sors avec mes amis et ça se passe très bien et tout, je suis hyper étonnée. Je me dis, tiens, pourquoi elle développe pas plus? Mais en fait, on sait même pas si elle peut le faire, en fait. Donc, voilà, je sais pas.
Ouais, je reviens un peu sur ce que je disais par rapport à Storni et donc l'idée que peut-être il n'y a pas grand chose qui sont racontées en dehors de ça. Parce qu'en fait, en dehors de ça, le monde qui tourne autour et tout ça, ben, en fait, il n'existe quasiment plus. Et donc, justement, c'est peut-être ça qui fait que le lecteur est pris dans ce tournis-là. C'est parce que, voilà, c'est une sorte de matrice dans laquelle on est pris et dont on ne sait pas s'échapper. Et pour moi, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça qui fait qu'on ne parle pas, en effet, beaucoup du monde extérieur. Et, donc, voilà. Juste un mot sur le prix du public. Le bleu est une couleur chaude. Je ne sais pas qui a eu l'occasion ici de le lire.
Personne.
Non, épuisé. Il était épuisé déjà, je pense, avant Angoulême.
Alors moi, je l'ai lu.
Wow.
Voilà.
C'est qu'Aurélie a beaucoup aimé.
Aurélie.
Aurélie. notre
Aurélie qui est. Donc, moi aussi, plutôt bien. En tout cas, plutôt. Une BD assez intéressante sur une histoire de deux adolescentes qui vivent une histoire amoureuse homosexuelle. Et donc voilà, mais je suis assez content aussi que ce livre-là ait pris et gagné le prix du public, parce que je crois que ça, c'est un bouquin assez intelligent sur un sujet un sujet qui n'est pas nécessairement facile, et le prix du public peut nous faire croire que c'est un bouquin qui sera lu par un public justement assez large et varié. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Il y a d'ailleurs une discussion autour de ce prix, puisque je pense qu'une juste quelques jours avant, une loi française passait par rapport à l'homosexualité, enfin surtout contre l'homosexualité, une sorte de durcissement de la loi par rapport à l'homosexualité en France. En justifiant que c'est ce que veulent les Français, parce que les Français, en disant voilà, les Français veulent durcir les lois, etc., par rapport à l'homosexualité, et que justement, quand le bouquin est sorti, j'avais vu plusieurs posts qui réagissaient en disant bah non, regardez, justement, le public, c'est le public qui a choisi ce bouquin, c'est le public qui veut qu'on en parle. Et c'était assez intéressant d'avoir justement ce bouquin qui sortait au moment justement d'une décision politique par rapport à ça.
Ben voilà,
c'est bien que le public...
Il y a donc un côté militant dans ce prix, quoi, probablement.
Je ne sais pas s'il y a un côté militant, je ne sais pas si le public, enfin le lecteur, enfin ceux qui ont choisi le prix, le panel... voter pour ça, mais en tout cas c'était symboliquement intéressant.
C'est pas surprenant que ce soit un prix du public dans la mesure où c'est une œuvre assez accessible, assez touchante, assez simple, mais dans les bons sens du terme. Et donc voilà, c'est, là aussi, c'est plutôt une bonne surprise.
Et Paul à Québec l'année passée, qui justement était aussi
oui,
très fort et très juste et très beau par rapport à un sujet difficile.
On peut le rapprocher en effet de cette œuvre-là. Et juste en 10 secondes, Nicolas, le prix de la série, il était une fois en France. Ça, tu l'as lu par contre, enfin, je lisais lui aussi.
Oui, tout à fait. Je suis très content que le festival soit penché sur un album un peu plus grand public parce qu'on lui reproche souvent de ne pas vraiment donner place à des œuvres plus grand public. Mais c'est une œuvre de haute tenue parce que c'est vraiment un très bon thriller sur basé sur une histoire vraie de John Avicii qui était pendant la guerre apparemment à la fois résistant et collaborateur, et c'est l'histoire d'un procureur qui après la guerre veut essayer de le coincer pour l'accuser de collaboration, mais pas mal de gens prennent sa défense en disant que c'est un résistant, et on va suivre l'histoire par flashback, découvrir le parcours de ce John Avicii et qui explique pourquoi il a fait les choix qu'il a fait, et c'est, je trouve, assez intéressant. Ce sera en 6 tomes, il y en a 4 parus. Voilà, les 10 secondes sont écoulées.
Voilà, allez, on va s'écouter un peu de musique avant de passer aux nouveautés. On va écouter un morceau de Dark Dark Dark, un groupe qui passe au Nu du Botanique. Alors, la date précise, c'est pas grave, je la retrouverai plus loin.
Le 19 mai.
Voilà, un morceau qui s'appelle In Your Dreams, qui est sur le dernier album paru en date. Voilà.
Kiss your face, turn your cheek, lay your head down, lay your head down.
Oui, donc nous allons reprendre en l'absence de Philippe, et je ne sais pas. On commence par une chronique, quelques chroniques nouveautés.
Oui, et c'est Vincent.
Oui, d'après le...
On peut peut-être faire d'abord un petit coucou à Art qui nous écoute tous les mois et qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure en parlant d'Angoulême.
Art, on est content pour toi. Peut-être que ça va te sauver la peau parce que tu es dans une sale pente descendante pour le moment. Il y a de plus en plus de gens dans la rue, je les entends, ils disent Art Spiegelman, c'est super surfait. Ce mec, il a fait Crow et après quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc Art, maintenant, tu vas pouvoir revenir à l'avant de la scène. Fais gaffe à faire ça en douceur et pas la ramener genre c'est moi qui ai inventé le comics indépendant des années 70. Hein.
Je conseille vivement de lire Blackbird qui mériterait amplement de recevoir un prix. Cette année.
Oui, exact.
Donc voilà.
J'annoncerai même le retour de Philippe dans la pièce.
Bonsoir.
Comment ça va, Philippe?
Eh bien, écoute, pas mal. Je discutais là avec... Enfin, voilà. Et donc très bien. Me voilà pris en défaut. Donc aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés de bande dessinée. Et alors, pour ce faire, nous avons la chance exceptionnelle d'avoir Vincent Degré parmi nous. Alors Vincent Degré, tu vas nous parler, Vincent, de deux livres, La plaine du Kanto, de Kazuo Kami.
Ah, c'est la séquence pour rire. Non mais je vais me prévenir.
Allez, La plaine du Kanto de Kazuo.
Vous avez répété ou bien comment ça se passe?
Je te laisse, ça va.
Donc, peut-être qu'à l'instar de Nicolas qui a poussé un grand cri d'amour pour le Gekiga, ça m'a fait cette impression-là aussi en lisant La plaine du Kanto, on en parlait un peu avant l'émission. Et c'est vraiment une lecture qui m'a laissé sans voix, je dois le dire. Parce que ça commence, bon, pour situer, ça commence vraiment à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est à genoux et a perdu la guerre.
Le lendemain de la capitulation, voilà. Donc c'est vraiment le...
Ça se passe donc dans la campagne, donc ils ne sont pas encore tout à fait au courant. Enfin, l'empereur l'a annoncé, mais il n'y croit pas. Enfin, il y a une espèce de doute au début. Un Américain s'écrase avec son avion dans un champ. Et ça, c'est le point de départ de la plaine du Kanto. Et donc ça commence finalement de manière assez soft sur cette irruption de la culture américaine, entre guillemets, avec ce pilote américain, dans le Japon de la plaine. Et une espèce de vent de liberté qui commence à souffler comme ça tout d'un coup dans un endroit qui n'est pas du tout habitué à ça. Et on a aussi l'impression que parallèlement, enfin en tout cas que ce vent de liberté apporte aussi une série de, enfin, je dirais, de pollen de perversité. Enfin, il y a vraiment une forme de perversion qui s'exprime et qui explose dans la campagne, dans une culture très, très fermée, très organisée. Et ça commence donc de manière très soft. Et puis tout d'un coup, il y a des éléments qui arrivent, cette espèce de, de petite fille qui devient la voisine. Donc c'est centré sur un petit garçon. Donc une petite fille s'installe dans la maison d'à côté. Et en fait, est-ce que c'est une petite fille ou pas? Il y a une espèce d'hésitation sexuelle, il y a toute cette espèce de portée sexuelle. Les femmes sont généralement violées, battues, ligotées, enfin...
Bondées, ouais, ça.
Voilà, c'est vraiment l'art du bondage qui...
La plupart volontairement, ouais.
Et qui meurent éventuellement aussi de ces sévices voulus ou pas, d'ailleurs. Ça dépend un peu des cas dans l'histoire. Et cette espèce de déchaînement, finalement, de violence sexuelle, ou en tout cas de pulsion sexuelle qui fait que donc les femmes généralement sont assez maltraitées même si elles le veulent, et les hommes n'arrivent pas à sortir de leurs conditions. Il y a une espèce de volonté de sortir de ça, et ils sont en permanence ramenés dans leurs trous, ramenés dans leurs conditions d'origine. Donc il y a vraiment une forme de désespoir très poignant dans La Plaine du Cantour, en tout cas dans ce tome 1, et une forme très très dérangeante et très passionnante d'expression de la perversion.
Oui, qu'on dit souvent, ah, le Japon, ah, la perversion, etc., Araki, le bondage, etc. Enfin, il faut quand même rappeler que Taniguchi fait des histoires dans lesquelles le bondage est assez absent, donc c'est pas une donnée constante. Je trouvais que ce qui était assez intéressant dans ce bouquin, c'est que d'une part, il y a une espèce de désir d'évoquer le paysage de cette plaine, qui est apparemment le grenier à blé du Japon. Et chaque fois qu'est évoqué le paysage, il l'est fait avec un énorme respect. De fait, les fleurs sont chiadées, les épis et la verdure est dessinée constamment. Et puis on a ces personnages dessinés dans un style assez proche de la caricature, un peu comme on trouve dans les origines de la bande dessinée japonaise. Ce truc qui nous, a priori en tant que lecteur occidental, nous laisse un peu froid. Moi, je suis entré un peu à rebrousse-poil dans ce bouquin en me disant, oh là là, le dessin me dit pas grand chose. Mais je dois dire que l'histoire est de fait assez poignante, et notamment la manière dont s'articulent les personnages et leur perversité, parce qu'ils sont tous peu ou prou pervers, et en même temps ces paysages qui sont maniérés et montrés comme traversant les époques, est assez étonnant. Un peu comme une opposition nature-culture qui est chaque fois plus ou moins qui montre la nature comme d'une très grande beauté et les hommes d'une très grande faiblesse. Et tous ces personnages en fait sont pervers, mais il y a de la jouissance et il y a de l'amitié, du bonheur, etc., qui émerge de cette perversité même, qui est en fait la chose la plus étonnante pour moi de ce bouquin. C'est-à-dire qu'on a un personnage, le petit garçon, du point de vue de qui il racontait l'histoire. Je trouve que déjà ça, c'est assez bien fait, parce que c'est un enfant qui est pas un enfant genre, quand j'avais 7 ans, je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais son point de vue est là, on sent que c'est son point de vue à lui, mais en même temps, il est pas appuyé comme infantile, etc. C'est un enfant relativement malmené, puisqu'il va être aux prises, il va voir de la sexualité, il va voir la mort très très vite dans le bouquin. Et d'autre part, il est pris dans une relation d'amitié tout à fait étrange avec ce personnage féminin dont on s'aperçoit très très vite qu'en fait il est un petit garçon qui se considère comme étant une fille, et donc vit ça de manière relativement à la fois perverse mais naturelle. Et entre ces deux personnages, il y a une relation qui s'établit, qui est d'abord un truc de le petit garçon trouve un peu repoussant cette petite fille, s'en éloigne, et puis par la force de la proximité, parce qu'elle est dans le village, parce qu'elle réussit à s'imposer par une manœuvre absolument horrible, c'est-à-dire qu'elle fait du chantage sur le meurtrier de sa mère, elle réussit à s'imposer dans ce village, et il devient finalement l'ami de ce garçon. Et il en est de même pour toutes les relations qu'on pourrait dire perverses à l'intérieur du bouquin. Finalement, on fait son ménage dans les rapports sociaux avec la perversité de chacun. C'est une espèce de chose qui se dit peu en fait en bande dessinée et en récit habituellement, et je trouve que ça c'est assez bluffant dans ce bouquin.
Oui, et de le replacer aussi dans l'œuvre de Kamimura qui est maintenant été bien publié chez Kana, puisque il y a quelques grosses briques comme Lorsque nous vivions ensemble, Folle passion, qui l'avait surtout été mis en avant par Lady Snowblood, qui était un récit scénarisé par Koike, qui avait vaguement inspiré Tarantino pour son Kill Bill. Et ce bouquin-là est finalement celui qui sort le plus de... qui est vraiment le bouquin différent, enfin, je trouve, qui est le plus singulier de son œuvre, parce que c'est aussi une œuvre autobiographique, puisque même s'il n'utilise pas son prénom, il le présentait comme étant ce qu'il lui a vécu. Et ce qui est vraiment intéressant, parce que c'est un vrai Geekika, donc une histoire dramatique, si on traduit le terme de Geekika. C'est un auteur qui, comme la plupart, Tatsumi et les autres, est né, a vécu à l'âge de entre 5 et 7 ans la chute de l'Empire japonais, qui va profondément les marquer. Et apparemment, tous ces auteurs de cette génération-là, qui ont vécu à cet âge-là, sont ceux qui vont mettre en place le Geekika, parce qu'ils voient d'un coup ce sort de raz-de-marée. D'un coup, tout le monde, après toutes les privations, après l'impérialisme qui a duré quelques bonnes décennies pour le Japon, toutes les privations, il y a ce moment où, effectivement, il y a le barrage qui cède, le désir... tourne à la tête de tout le monde, et il y a tout un excès qui mène à la mort, qui mène à beaucoup de choses, et qui mène aussi et c'est ça qui est vraiment surprenant, à des choses très très belles et très justes et émouvantes. Il y a une scène magnifique à la fin du premier tome, donc ce sera une trilogie, et à la fin du premier tome de la petite fille qui fait une leçon de ce qu'est la démocratie auprès de ses camarades, en disant qui pense que je suis une fille, qui pense que je suis un garçon. Et il y a même une réflexion sur toute cette société, et c'est vraiment intéressant, parce que c'est là aussi un récit autobiographique qui dépasse simplement le récit de vie. C'est une vraie réflexion, une vraie présentation de ce qu'est la société japonaise, puisqu'il faut dire que ce petit garçon, son grand-père qui l'a accueilli est romancier, est au courant de tout ce qui se passe au point de vue de la culture, des mœurs, de l'évolution de la société, de la critique politique, et que tout ça va aussi l'alimenter, et qui est très bien, je trouve, mis en place aussi dans le bouquin. Enfin, c'est assez incroyable la richesse de tout ce qui est abordé, alors que le dessin est très dénué, qu'il y a une temporalité assez lente, et puis quand on voit le contenu, c'est vrai que c'est une claque, quoi, parce qu'il y a, au point de vue des émotions, du contenu, des approches, de toutes ces choses, c'est assez bluffant. Moi, c'est vraiment un bouquin qui m'a...
Oui, tout à fait.
Qui, de ce début d'année, est un des plus marquants. C'est vraiment super.
Ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est qu'on trouve une thématique assez similaire chez Imamura, notamment au niveau du cinéma.
C'est vrai que c'est le plus proche.
Et donc, il y a ce côté où, en effet, toute une société est déstabilisée, les personnes aussi qui en font partie, donc destin collectif, destin individuel. Et ici, on a une sorte de crescendo, je trouve, dans l'effet dramatique tout au long du livre, avec une image assez saisissante de la jeune fille. Alors, je ne vais pas dire exactement ce qu'elle a, mais il y a une image assez incroyable juste à la fin. Et en fait, on se demande surtout comment ça va se prolonger, comment ça va... Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le cinéma d'Imamura, où Imamura montre un peu comme ça le Japon complètement assommé, bah, aussi par l'explosion des bombes atomiques, aussi par l'irruption tout d'un coup de l'armée américaine et d'une armée étrangère sur son sol, chose qui n'a jamais été vécue par ce pays-là, contrairement à la Belgique par exemple. Et donc plein de choses comme ça qui viennent un peu tout chambouler. Et après, il suit la manière dont les personnages vont réagir à ces différents chamboulements. Et je trouve qu'ici, on est un peu au début de ça. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. On est assez, finalement, assez impatient de lire le second tome et ce qui va suivre, pour voir comment ça va évoluer, quel choix les différents personnages dans ce livre vont poser. Et donc en cela, voilà, c'est aussi toute la force d'un premier tome. C'est de tout placer, c'est de... Mm-hmm. Mais ça, sauf que ça commence très haut pour un premier tome, en termes de placement, entre guillemets.
On a une écriture qui est quasiment feuilletonesque, puisqu'il arrive à faire de chacun des petits chapitres une entité quasiment en soi. Le retour de, comment s'appelle-t-il encore, Dragon, de ce militaire extérieur.
Oui, parce qu'il y a les Yakuza, il dresse un vrai portrait de toute la société, puisqu'il y a les Yakuza, il y a les romanciers.
Il y a les paysans, il y a les intellectuels, etc. Oui, oui.
C'est assez complet, oui.
C'est une vraie alternative, en fait, comme il prétend avec le genre, à de fait Tezuka et une approche très, en fait, Walt Disneyienne de la bande dessinée. Ici, on sent un désir d'affirmer quelque chose comme certaines valeurs de la littérature et du récit japonais, beaucoup plus dur, froid, axé sur la friction entre l'ordre et le désordre. Et ça fonctionne vraiment tout à fait de ce point de vue-là. C'est une excellente surprise, il faut dire.
Mais ce qui est aussi remarquable, je trouve, c'est que, Nicolas, tu parlais du grand-père tout à l'heure. J'ai l'impression que les deux seuls duos qui fonctionnent dans le livre sont pas les duos hétérosexuels, puisqu'à un moment donné, le mari est trompé par sa femme et puis il la tue. Puis bon, à un moment donné, il y a toujours une chute suite dans un duo hétérosexuel. Et les deux duos homosexuels fonctionnent, c'est-à-dire le grand-père romancier avec son ami dessinateur, le grand dessinateur. Grand-père beaucoup plus Japon traditionnel et le dessinateur qui lui voit cette espèce de vent de libération sexuelle et qui va se lancer dans la peinture du bondage, de l'art japonais du bondage. Et puis il y a ce petit garçon et cette fausse petite fille qui est en fait aussi un petit garçon. Donc les deux couples, entre guillemets, de garçons fonctionnent, ne sont pas du tout mortifères, alors que tous les autres ne mènent qu'à une chute, voire la mort.
Sur ces mots.
Et en parlant de couple, pas nécessairement mortifère, mais on parle pas mal de couples aussi. Je commence à être bon en lien entre les...
Quelle autre célébration.
Voilà. Comédie sentimentale pornographique de Jimmy Beaulieu, toujours Vincent.
Toujours moi, donc Jimmy Beaulieu. C'est peut-être difficile de résumer l'histoire de ce livre, c'est peut-être sans doute même pas le plus intéressant.
Est-ce qu'il y a une histoire ?
Est-ce qu'il y a une histoire ? Pardon. Mais Jimmy Beaulieu, il est passé il n'y a pas très longtemps en Belgique là, pour les interviews, donc j'ai eu la chance de l'interviewer. Et il m'a pointé très justement qu'il avait vraiment construit le livre comme lui-même à trois âges de sa vie. Il y a trois personnages masculins principaux, Martin, Louis et Massicotte, qui est donc un architecte. L'architecte d'un hôtel très fantasque, perdu au fin fond du Canada, un endroit où il n'y a pratiquement plus personne. Et donc, il racontait qu'il avait vraiment construit ça comme trois Jimmy Beaulieu, en fait. Le Jimmy Beaulieu de 24 ans, c'est Martin, donc qui a fait un film totalement commercial pour se faire un maximum de fric et après pouvoir faire ce qu'il voulait, notamment dessiner, parce qu'il dessine énormément de bandes dessinées, mais sans les publier encore. Donc, ce Martin de 24 ans, c'est donc le Jimmy Beaulieu de 24 ans, accroché à ses idéaux et son romantisme déraisonnable. Donc, je me trompe, Martin Guerrier-Pice, c'est l'écrivain. J'ai tout mélangé. Mm-hmm. C'est pas fait. Et donc c'est un jeune écrivain.
Lisez qui... l'album pour vous y retrouver.
Et d'ailleurs, c'est parfois difficile de s'y retrouver parce qu'il s'est entrelardé d'extraits fictifs de ce livre, et tellement précis et tellement accrocheur que apparemment tous les journalistes demandent à Jimmy Beaulieu où on peut trouver le livre. Il le cherche sur Amazon, etc. Donc, s'il voulait vraiment lui-même se faire de l'argent, il devrait l'écrire et le mettre sur Amazon. Donc, Martin Guerrier-Pic, qui est l'auteur d'un livre au titre vraiment improbable, donc Pink Floyd avec un sous-titre très long, et qui renonce à sa vie de couple pour pouvoir continuer à écrire. C'est quelqu'un qui préfère le romantisme malheureux à une vie de couple heureuse, parce qu'il sent que les mots le quitteraient et il ne pourrait plus faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire écrire. Il y a aussi Louis, qui donc est ce fameux cinéaste commercial, qui fait un film totalement putassier pour faire un maximum d'argent et pour ensuite se retirer, qui est un peu le Jimmy Beaulieu de dans quelques années s'il ne se surveille pas, c'est-à-dire quelqu'un qui va renoncer à ses idéaux, en tout cas qui devrait peut-être renoncer en partie à ses idéaux pour pouvoir continuer à vivre de son art. Et il y a donc la fameuse architecte Massicotte, l'architecte de l'hôtel, qui ressemble un peu, moi je trouvais, à l'hôtel de Shining de Stephen King, donc un hôtel, une espèce de très grand hôtel, très très compliqué, avec des jardins, des faux décors, enfin vraiment basé sur le faux semblant. Massicotte, qui lui est mort de cet hôtel qu'il a bâti dans son espèce de folie, donc d'ailleurs l'hôtel surnommé la folie Massicotte, qui est le terme morbide qui attend tout être qui veut aller au bout de ses idéaux et au bout de ses exigences personnelles. Et donc quelqu'un que Jimmy Beaulieu essaie de ne pas être à tout prix.
Wow! Tu en parles de manière complètement alléchante. Et donc, est-ce que ça t'a alléché, cette lecture?
Oui. Oui, oui, oui et non. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect un peu parcellaire qui est dû à sa jeunesse. Donc on peut en parler. Effectivement, il a été composé au fil des années jusqu'à ce qu'il ait un contrat avec Delcourt, où là il s'est assis à sa table à dessin, il a refait un livre à partir de tous ces fragments, en redessinant des choses, même si au fil du temps, de temps en temps, il se disait, tiens, c'est une histoire qui me vient, ça pourrait coller avec tel personnage que j'ai déjà utilisé par ailleurs. Il y a des parties qui viennent directement des 24 heures BD, d'Angoulême et de Grand Papier. Enfin, il y a un côté un peu bande dessinée du Dépeceur de Monstres, de ce point de vue-là.
Oui, bah, qui était déjà un peu le cas avec à la faveur de la nuit, son précédent, Impressions Nouvelles, qui aussi fonctionne comme... Une créature de Frankenstein un peu rabibochée de différentes histoires reliées entre elles. Donc effectivement, les deux derniers bouquins semblent fonctionner sur ce principe-là de réunir une matière et de jouer avec cette matière, en tout cas de jouer à créer un nouvel être à partir de différents fragments.
Ouais. Il faut quand même parler pour ce bouquin, pour ceux qui n'ont pas lu, qui savent pas, qui connaissent pas le boulot de Jimmy Beaulieu, il faut quand même dire qu'on parle beaucoup d'architecture et de trois personnages masculins, mais il y a pas mal de fesses dans ce bouquin. C'est un bouquin qui, comme son nom l'indique, fricote avec l'érotisme et la pornographie. Donc il y a des jambes écartées, des femmes aux jambes écartées, des sexes en érection.
L'érotisme, en tout cas, la pornographie, ça me semble.
Oui, la pornographie, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, il y a cette volonté, en tout cas, d'avoir un rapport franc et direct avec la sexualité et qui donne des scènes assez plantureuses, puisque Jim Beaulieu s'est dessiné des corps de femmes un peu charnues et libérées sexuellement. Donc il y a un côté très québécois dans la façon dont les femmes se trimballent à poil, etc., qu'on appréciera beaucoup en tant qu'homme, etc. Donc c'est très plaisant de ce point de vue.
Moi, c'est principalement ce que je retiens, c'est le côté graphique, où je trouve que Jimmy Beaulieu a vraiment un style qu'il a développé depuis des années maintenant, que ce soit dans ses bouquins chez Mécanique Générale au Colosse un peu plus tard. Et donc, moi, c'est graphiquement que ce bouquin, je le trouve intéressant, mais je dois bien dire qu'au niveau de l'histoire, là, par contre, ce côté parcellaire, moi, m'a plutôt ennuyé. Et j'ai plutôt l'impression, en effet, de tomber sur des bouts qu'on a mis comme ça ensemble, qu'on a rapiécés. Et chez moi, ça n'a pas trop marché. Moi, je me suis plutôt, ennuyé, en fait. Voilà, c'est des couples qui se font, qui se défont un peu, et puis voilà. Mais ça m'a pas fort parlé. J'ai pas ressenti beaucoup d'empathie ou de sympathie pour les personnages. Et je me dis, waouh, Vincent, il est fort. Comment il arrive à parler de ce bouquin
comme ça.
Alors que moi, je me suis juste ennuyé et que je n'y ai pas trouvé grand intérêt, un peu plus d'intérêt qu'à La Faveur de la nuit, mais que déjà, je n'avais pas beaucoup apprécié.
Moi, j'ai l'impression d'être du début à la fin dans le fantasme de Jimmy Beaulieu, quoi. C'est juste, il dessine à la perfection des filles. Je veux dire, j'en suis une et je me dis, ouais, d'accord, ok, c'est chouette. Mais les filles sont quand même, notamment l'héroïne, qui est quand même là du début à la fin, qui est complètement libérée, homosexuelle, prête à tout. Elle est, dans la manière dont il la dessine, elle est tout le temps prête. Elle est tout le temps disposée. Même assise dans la voiture, on voit sa culotte, quoi. Je veux dire, elle est toujours dans une petite robe.
Martine aussi. Hein,
mais... Oui, Martine aussi, je sais.
Et Alix.
Et donc... C'est du pur fantasme du début à la fin. Moi, je vais être un petit peu plus méchante que toi, Vincent, mais j'ai envie de dire à Jimmy Beaulieu, prends pas la peine de faire des histoires, quoi. C'est tellement, c'est présent, omniprésent, c'est constant, quoi. C'est voilà. Justement. Mais c'est pas enfin, je veux dire, le dessin est. J'ai pas passé un mauvais moment, même en tant que fille, de voir des filles toutes nues, c'est pas ce qui m'excite. Mais c'est bien fait, et puis voilà, les personnages sont sympa, entre guillemets. Il y a un truc chouette dans ce livre, mais bon, en termes d'histoire, t'as l'impression que c'est des prétextes à aboutir très rapidement à une scène de ce qu'il adore dessiner, des fesses et des seins et des courbes. Donc voilà, son plaisir, eh ben, il est bien communiqué, quoi. C'est pas un problème, mais bon, voilà. J'espérais, en fait, en ouvrant ce livre, justement tomber sur une structure narrative plus puissante que ce que j'avais déjà vu chez lui dans des courts récits. Et malheureusement, entre guillemets, en fait, c'est juste une compilation de ces courts récits. Et donc, la narration n'est pas plus tenue, pas plus tenue que dans ce que je connaissais déjà de lui.
Parce que je trouve que dans ce récit, c'est vrai que c'est moins la structure narrative que finalement tout fonctionne en symbole. Par exemple, l'hôtel. Moi, ce qui m'intéressait le plus, finalement, en fermant le livre, c'est l'hôtel. C'est l'espèce d'hôtel dans l'hôtel, à un moment donné, les décors qu'ils installent pour faire croire que c'est New York, et après, ben non, ce sera Paris ou Saint-Pétersbourg. La mise en scène, le hall caché, enfin La façon dont il en parlait aussi, c'était qu'il voyait vraiment ça comme une allégorie de son propre travail et du livre lui-même, qui est une forme effectivement de folie ou de délire, mais un délire quand même construit plus ou moins, même si c'est par des morceaux de choses.
Ce que tu mets en avant, c'est vraiment présent dans le bouquin, mais c'est potentiellement. C'est vrai que cette idée d'hôtel, elle est assez terrible, mais elle est... faudrait compter, mais quelle page il lui dédie à cet hôtel comparé au reste. C'est juste que peut-être que... Donc il a des capacités à mettre en place des choses hyper intéressantes.
Donc mais le message, c'est Jimmy, fais-nous un album sur cet hôtel.
Peut-être, voilà, avec quelques finieux.
Regarde Shining et tu verras qu'il y a moins de scènes de cul dedans.
Et peut-être juste pour terminer un mot sur le titre, parce que comédie sentimentale pornographique, je lui ai demandé pourquoi un titre. Est-ce qu'il voulait bouffer à tous les râteliers, c'est-à-dire quelqu'un qui veut une comédie va l'acheter, veut du sentiment va l'acheter, et puis veut du porno va l'acheter. Mais lui, il disait non, c'est exactement l'inverse. Puis il pense qu'il va écrémer son lectorat au maximum avec un titre où il y a pornographique dedans. Il sait très bien que les Américains vont pas l'ouvrir.
Pour les Américains. Par contre, j'ai l'impression que en librairie, il cartonne bien. En France ou en Belgique, ça peut marcher.
Oui. Oui, mais ça, il a été surpris de le savoir.
Mais comme tu dis, j'ai lu.
Parce que là, pour le coup, c'est ultra tendance. Oui. Pour le coup, c'est le truc, c'est le titre génial qui fait que tout le monde se penche dessus.
Il fait que le livre se vend, en effet.
C'est comme ça t'ouvre quand il parlait de No Sex in New York en disant pourquoi j'ai donné ce titre. Eh bien, parce qu'il y a deux mots qui faisaient que ça allait bien se vendre. C'était
New York.
C'est pas pour rien que d'ailleurs le Beaulieu sort chez Delcourt. Disait que si lui l'avait sorti à Québec, s'il aurait fait ça sur du papier local et tout, ça aurait coûté un pont et que. Le fait de le faire chez Delcourt, c'était aussi un peu comme Louis qui fait ce film commercial pour toucher un plus large public.
En tout cas, comédie sentimentale pornographique, ça le fait plus que La Plaine du Canto, ça c'est clair. Mais bon, après la qualité des bouquins, ça c'est une autre question. Alors, on va s'écouter un peu de musique. Von Sydenfeld, qui est une collaboration entre le chanteur de The Fall et Mose on Mars, comme me le rappelait à juste titre Bertrand, The Young, The Faceless and The Codes.
It's really how I think it's going. I think it's really how I think it's going.
Of all nights and
goals.
Voilà, seconde partie de la rubrique nouveauté avec Nicolas qui n'était pas là la fois passée, donc qui nous revient de loin pour nous parler de L'île aux 100 000 morts de Fabien Vellman et Jason dans un premier temps.
Tout à fait, commençons. Alors, vous avez déjà dû l'entendre dans les émissions précédentes, je suis un grand fan, grand admirateur de Fabien Vellman, que je considère comme l'un des scénaristes les plus talentueux aujourd'hui, et Jason qui m'a un peu bouleversé ma vie de lecteur de BD avec son Attends, quand je l'ai lu, je me suis vraiment pris une bonne grosse claque. Et puis ensuite avec les œuvres qui ont suivi, qui étaient tout aussi admirables, comme Chute ou J'ai tué Adolf Hitler, un univers...
Mauvais
quoi donc
Mauvais
chemin aussi, tout à fait. Je croyais que tu me disais mauvais choix, je me dis mais vraiment, mais comment ça, il se lâche quoi. Il est en forme.
Il va être crapuleux ce soir.
Oui, oh, je sens ça. Les auteurs de Manuel V qui sont de voir ça.
Bon, je vais retourner aux toilettes, je crois.
Oui, je pense aussi.
Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans ce livre ? Est-ce qu'il y a des cascades ? Est-ce qu'il y a des
bad-? Et donc, c'est la rencontre de ces deux auteurs. Jason travaille généralement seul. C'est sa première collaboration. Il avait collaboré déjà une fois avec Fabien Vellman sur une page dans un collectif. Et en fait, ils ont toujours voulu collaborer l'un avec l'autre. Jason ayant lu le superbe Samedi et Dimanche de Fabien Vellman, dessiné par Gwen de Bonneval. Et Fabien Vellman ont lu plusieurs albums de Jason, ils ont voulu collaborer ensemble, faire un album qui est ce one-shot, L'île aux 100 000 morts, qui est assez atypique parce que c'est un ouvrage tout public, mais qui est d'une assez grande férocité, qui raconte l'histoire de la jeune Gwenny, qui à une mère pas bien du tout dans sa tête qui essaye de la tuer. Son père a disparu en cherchant au loin un trésor sur une île mythique qui s'appelle l'île 100 000 morts. Elle va échapper de justesse à la mort en fouillant sa mère, partir convaincre des pirates de l'emmener avec elle vers cette fameuse île 100 000 morts parce qu'elle prétend avoir trouvé un morceau de la carte. Et elle part à l'aventure en essayant de ne pas se faire désaguer par ses pirates une fois qu'elle leur a indiqué la direction à prendre grâce à un excellent stratagème que je ne révélerai pas ici, et se retrouver dans cette île qui est une île d'autant plus surprenante qu'une organisation secrète s'y cache. Et je pense que je peux révéler sans trop...
Mais tu vas carrément spoiler à fond.
Spoiler, non, je ne spoil pas tout le bouquin, parce que tout tient aussi dans la finesse de la mise en page, des découpages, des ellipses, des dialogues, mais se retrouve sur cette île qui n'est autre qu'une école de bourreaux.
Il le fait, il spoil.
Je ne spoil pas, je ne pense pas que je spoil, parce que c'est assez, ça se découvre assez vite, et sur Internet, et sur le quatrième de couverture, je pense, et je pense qu'il n'y a pas vraiment... la surprise tient de la façon dont il va exploiter cette idée, parce que l'idée est assez grandiose d'imaginer des petits-enfants qui doivent apprendre à devenir des bourreaux et qui ont des cours d'épée pratique où tous les pirates qui osent s'aventurer sur l'île vont servir à leurs fameux travaux pratiques. Alors l'idée est assez terrifiante et je la trouve assez géniale aussi, surtout dans un ouvrage tout public. Et je trouve ça d'une force, d'une noirceur, mais en même temps, je trouve que, et c'est ce qui fait la force de Fabien Wellman dans ses récits pour le tout public, et principalement sur sa série Seul, qui est un véritable chef-d'œuvre, parce que Wellman a décidé de faire confiance aux enfants en leur disant les choses telles qu'elles sont, avec une distance effectivement.
Et oui, les bourreaux ouvrent l'école, faut que tu le saches, oui, mon fils.
Voilà, tout à fait, que c'est un métier difficile, ça on le sait, on l'ignore, qui demande beaucoup de travail, comme tous les métiers.
Une filière peu soutenue par la communauté française.
Tout à fait, et je trouvais ça intéressant. Je n'ai qu'un petit reproche à faire au bouquin, c'est son format, parce que je l'aurais vu un tout petit peu plus petit. Je ne comprends pas pourquoi il a été fait si grand. Je trouve que ça ne rend pas vraiment justice à la mise en couleur. Je trouve que finalement les aplats sont un peu trop grands, mais sinon moi ça m'a marqué. J'en attendais beaucoup parce que c'était à la fois Fabien Wellman et à la fois Jason ensemble, et je dois dire que je n'ai pas été déçu, parce que je trouve qu'ils ont réussi l'un et l'autre à comprendre les spécificités de chacun. En tout cas, Wellman a vraiment réussi à faire un scénario bien adapté à la rythmique de Jason, à son sens de l'ellipse, avec de très bons dialogues. Donc c'est un album qui, en tout public, est assez étonnant et assez courageux aussi, je trouve. Voilà, je te laisse intervenir, Stéphane, je sens que tu es prêt.
Pas du tout, je suis... En fait, moi, j'ai acheté deux de ces bouquins, figurez-vous, parce que j'avais trouvé dans une librairie, les 15-20 premières pages offertes, comme ça, en pâture au lecteur. Donc, on est vraiment dans les nouvelles stratégies de marketing, on en reparlera tout à l'heure avec Manolo Santis, probablement. Donc, on donne une partie non négligeable du livre à lire comme teaser, et ça fonctionne assez efficacement, puisque moi, j'en ai acheté un pour offrir un anniversaire et un pour mon fils, que j'ai lu en soirée. Ils sont restés un peu par la fin, ouais. Mais en même temps ça fonctionnait de fait pas mal de ce point de vue. Pour les gens qui connaissent pas le boulot de Jason, ben en fait il faut dire que c'est un boulot qui est très posé, très apathique, comme le personnage lui-même. C'est un dessinateur grand, silencieux et même mutin, voire autiste. C'est vraiment le dessinateur de bande dessinée dans son côté le plus groumph du terme. Vous voyez le mot groumph dans le dictionnaire. Et ici on a un gaufrier 9 cases qui se garde tout du long, donc boum boum boum, 9 cases de même taille par page, avec un dessin qui doit beaucoup à Hergé, mais encore dans une forme extrêmement dégagée. Donc un dessin au même trait toujours, une façon de maîtrise de la case quand même, il faut le dire. Les personnages sont dans un espace extrêmement dégagé, extrêmement lisible, et donc une impression générale de grande froideur et de grande distance. Ces personnages ont tous de grands yeux un peu impassibles.
Ils ont des yeux vides.
Et donc il faut en effet avoir un récit qui va avec ce type de truc, parce que les cascades à la Largo Winch ne fonctionneraient pas avec ceci. Ou peut-être que si, finalement.
C'est vraiment... Ouais, dans les trois, les mousquetaires, son album des mousquetaires... C'était assez action et délirant, et ça tournait assez bien, je trouve.
Ok, donc Van Hamme lâche un peu ce gars.
La force finalement de ce livre, c'est que Velman a su utiliser ce qui pour moi est en grande partie l'univers de Jason, parce qu'en lisant ça, je retrouvais en effet des bouquins qu'il a publiés chez Atrabil, mais déjà il y a un certain temps. Donc on a parlé d'Attent, Mauvais Chemin, Le Retour de la Momie, toutes des choses comme ça, par la suite chez Carabas. Et pour moi, à la limite, j'aurais pas pensé à un scénariste pour ce bouquin-là. J'aurais dit, ah, ben, c'est le nouveau Jason, c'est du Jason. Sauf qu'on se retrouve plus dans la catégorie tout public. Donc c'est comme si, ça s'était pas adouci, mais ça s'était juste tourné. L'imagerie et l'univers de Jason étaient tournés vers un autre public. Mmh. Et c'est ça pour moi le véritable tour de force de...
C'est ce que voulait Jason. Il voulait un scénariste, ça fait de longues années, parce que même quand il était à Bruxelles il y a 5 ans, je pense, il cherchait déjà, il y a 5 ans, un scénariste pour faire un album tout public à la RG, entre guillemets, ou qui fonctionnerait sur la rythmique avec une surprise en bas de chaque page, avec une vraie rythmique à la RG. Et donc, dans la personne de Fabien Velman, je pense qu'il a trouvé le scénariste qui correspondait le mieux, parce que, effectivement, dans son approche de la jeunesse, Velman est un de ceux qui osent le plus présenter aux enfants de violence, de sang, tout en conservant l'intelligence de la distanciation et du recul, mais qui est vraiment important. Donc moi, ça m'a été... Bon, je trouvais vraiment... Et aussi intéressant, parce que ça sort chez Glénat, qui est un éditeur... Donc, généralement, Jason était chez Atrabil et Carabas, et Fabien Velman, qui a aussi, en tant qu'auteur, une démarche assez intéressante de publier presque systématiquement chez un éditeur différent, pour augmenter ses expériences éditoriales de rapport aux gens et d'être un peu présent partout, chez Dupuis, Dargaud, Futuro, Glénat. Et c'est assez intéressant aussi comme son travail de chercher à être dans différents catalogues avec différents types d'œuvres qui trouveraient vraiment leur place, parce qu'il décide finalement de oui, ce bouquin-là, je le verrais bien chez Futuro, enfin, de s'inscrire dans une démarche, même en tant qu'auteur, de se dire, ce bouquin, je le vois là, et qui vient de reprendre la série Spirou, puisque maintenant c'est le nouveau scénariste de Spirou depuis le numéro 51 ou 52, je ne sais plus.
On peut même dire ça par rapport à Glénat, finalement, parce qu'avec un Inantico qui est sorti il y a quelques mois
dans cette fameuse collection Millefeuille,
et le bleu est une couleur chaude dont on parlait là tantôt dans le palmarès d'Angoulême, qui est aussi chez Glénat. Finalement, c'est un peu surprenant pour cet éditeur. On ne l'attendait pas là, en tout cas sur ces terrains-là. Et pourquoi pas, finalement, on va voir ce que ça donne par la suite.
Et vite, parce qu'on a...
Mais on passe au second livre, en tout cas, que Nicolas va nous présenter, des nouvelles d'Alain Keller et Emmanuel Guibert.
Tout à fait. Et tout à fait pour les couleurs, je pense.
Et le Mercier.
Le Mercier.
Et le Mercier.
Découpage.
Oui. Oui. Pour les blagues.
Voilà.
Ok. Donc, Emmanuel Guibert, que on ne doit plus vraiment présenter, mais que je présenterai quand même. Un auteur qui est pour moi un des grands dessinateurs virtuoses de la bande dessinée franco-belge contemporaine, parce qu'il est capable de tout faire, qu'il a commencé avec un album qui s'appelait Brune, qui était une sorte d'ultra-réalisme allemand absolument saisissant, qu'il abandonne pour faire du Lavis sur la fille du professeur, puis va épurer son style pour Les Olives Noires et continuer vraiment cette épuration stylistique avec La Guerre d'Haleine et Le Photographe, qui était d'excellents ouvrages à mes yeux, où il y a vraiment une technique et une volonté de porter le propos, parce qu'il parle maintenant de plus en plus de porter le témoignage d'autres personnes. C'était déjà le cas avec La Guerre d'Haleine, qui raconte l'histoire d'une rencontre. Il a rencontré un vétéran américain, et ils vont se lier d'amitié, décider de raconter le parcours d'Alan, au travers du photographe, de parler de feu Didier Lefebvre, qui était un photographe qui était parti accompagner une mission humanitaire en Afghanistan, et il va, au travers de cette rencontre, raconter sa vie avec une approche intéressante, qui est de placer les photographies de Didier Lefebvre au sein de l'album, et finalement que les cases vont, au moment où Didier Lefebvre prend une photo, on va voir la photo apparaître, et donc finalement ce rythme qui est assez intéressant. Et il remet, je trouve, le couvert ici avec un autre photographe qui était en l'occurrence un ami de Didier Lefebvre et qui s'appelle Alain Keller et qui s'est préoccupé du sort de la communauté rome, qui est la plus grande minorité européenne, puisque ce n'est plus le. Enfin, depuis. Elle était la deuxième minorité au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, elle n'est plus. Maintenant, c'est les Roms qui sont devenus. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs dans le bouquin, dans l'écriture, c'est ce rapport à l'auteur, Alain Keller, qui est juif, dont une partie de la famille est décédée dans les camps de concentration, et qui va parler, regarder aujourd'hui la condition des Roms et faire tout un tas de liens entre cette minorité qui était les Juifs et la minorité que sont aujourd'hui les Roms, au travers de photos qui sont assez saisissantes et qui prennent de plus en plus de place. On a beaucoup plus de photographies que dans le photographe. Ici, les interventions d'Emmanuel Guibert se réduisent encore, et on en parlait avant l'émission, où il y a des planches carrément entières, où il n'y a que les photographies, et où je trouve que Emmanuel Guibert s'efface pour porter le propos des photos, qu'il essaye de disparaître, qu'il veut pas se montrer virtuose parce qu'il pourrait se la péter, mais il se la pète pas. Et je trouve qu'il porte vraiment le récit, parce qu'il y a un vrai message, une vraie réflexion sur cette situation qui est véritablement catastrophique. D'ailleurs, les deux derniers chapitres ont été rajoutés parce qu'il y avait une prépublication, je nous en parlerai, dans le magazine 21, puisque c'est au départ publié dans la revue 21. Il y a deux chapitres supplémentaires qui parlent aussi de la condition des Roms en France, qui a été faite, récit qui avait été écrit juste avant le début de leurs expulsions par Sarkozy pendant l'été passé, oui, c'était ça. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un album qui est pas non plus larmoyant, parce qu'il y a une volonté de vie, et surtout à la fin de montrer une vie au travers des enfants, au travers d'un espoir, au travers de la danse, de la musique, au travers de l'intégration du personnage de Kezaf Chavé, donc musicien. Et il y a vraiment, je trouve, on est ballotté entre, j'avais écrit dans une chronique, entre éclat et obscurité. Enfin, il y a vraiment ce côté là et j'ai trouvé le bouquin très touchant, avec à la fin un excellent dossier absolument passionnant sur cette minorité qu'on connaît généralement très mal, ou qui en fait où il y a un véritable racisme ordinaire qui s'est installé par rapport à la communauté rome dans l'imaginaire. Et je pense qu'en plus c'est passionnant, parce qu'on apprend plein de choses sur leurs origines, leur situation, leur culture. Donc c'est vraiment, moi je trouve, un bouquin qui était très réussi, parce qu'il réussit son objectif, celui de parler ou de toucher ou de nous faire nous intéresser à ces gens qui sont généralement méprisés dans nos pays d'Europe de l'Est, de l'Ouest.
Ouais.
Ouais, tout à fait.
Joanna.
Alors quand j'ai vu qu'on avait ce livre pour l'émission, je me suis dit oulala, j'ai pas très envie. Pourquoi? Alors je suis le 21, et donc cet album, les chapitres de cet album étaient pré-publiés dans le 21 depuis automne 2009 jusqu'à automne 2010. Et alors ça m'est tombé des mains, ce qui est rare dans le 21 parce que j'aime à peu près tout lire. Ça m'est tombé des mains, et donc je me suis remis à l'ouvrage. Et alors il y a des différences qui sont quand même vraiment importantes entre la prépublication dans 21 et le livre. Déjà le livre, quand on l'ouvre, non, je vais commencer par le 21 en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a bloqué dans le 21, c'est qu'en fait, avant même de rentrer dans le témoignage, parce que le témoignage, comme tu dis, en soi, il est incroyable, et c'est un sujet assez difficile, et c'est assez passionnant, et du début à la fin, on est vraiment pris dans son témoignage. C'est très bien fait, c'est pas larmoyant, les photos sont vraiment terribles. Mais alors dans le 21, le problème, enfin pour moi, hein, selon moi, c'est que alors c'est... C'est pré-présenté par 21, puis pré-présenté par Guibert, et alors c'est vraiment... Alors là, on va vous parler d'un truc incroyable. Et puis, il y a une mise en contexte qui n'en finit pas de démarrer, et à la fin seulement, enfin, au bout d'un moment seulement, on tombe dans le récit. Le livre, c'est complètement différent. On l'ouvre, on a quand même un super beau paysage en trois volets. Ensuite, on ouvre un peu plus, et on retombe sur une série de photos, et enfin, après des photos donc muettes, hein, on a juste la légende On commence enfin avec le prologue, qui est donc d'Alain Keller, enfin, qui parle de la vie d'Alain Keller. Et puis, on passe enfin au photographe. Et c'est, pour moi, ça fait une différence énorme. Donc, je trouvais ça vraiment lourd dans le 21. Et là, on est directement dans le travail d'Alain Keller. Mais du coup, je me suis quand même dit, et c'est quoi sa place à Guibert dans cette histoire? Parce que il dessine des choses, donc on a le travail d'Alain Keller qui est quelqu'un qui s'investit d'une manière incroyable. Et puis à côté de ça, on a Guibert qui est donc le passeur, mais bon, il fait pas que passer, il dessine. Mais qu'est-ce qu'il raconte dans ses dessins? Parce qu'il dessine des endroits où il n'a pas été lui-même et qui sont exactement, enfin qui ont exactement le même contenu que la photo, sauf que c'est du dessin. Et c'est un problème aussi qui pour moi existe dans 21, c'est qu'il y a des gens qui proposent une illustration. Enfin, j'en ai amené un justement pour montrer, mais par exemple, si c'est Planck et Replanck qui illustrent un article, ben ils se mouillent quoi. Donc, dans ce qu'ils proposent, on n'est pas dans la photographie du tout quoi. Donc, l'illustration amène autre chose et une orientation particulière par rapport au texte. Et il y a des illustrateurs qui ne le font pas, et moi je trouve ça assez frustrant. Et je me dis juste, Emmanuel Guibert, qu'est-ce qu'il fait à part donner juste. Moi je préfère, enfin, il n'y a pas photo pour moi dans ce livre, je l'ai re-regardé tout de suite. Je préfère mille fois les photos d'Alain Keller au dessin d'Emmanuel Guibert. Et donc, qu'est-ce que son dessin amène? Donc c'est un passeur, bravo Emmanuel Guibert, il a fait c'est un super beau livre, le fond est incroyable, mais en tant que dessinateur, lui, qu'est-ce qu'il amène? Et j'ai pas de réponse à ça, quoi.
Moi, c'est mon principal reproche aussi, à savoir que le thème, évidemment, est très intéressant, et le travail d'Alain Keller est rentré très bien, mais autant je trouvais que le dessin d'Emmanuel Guibert dans La guerre d'Alain était très très bien. Dans Le photographe, ça avait encore tout son intérêt. Je trouve qu'ici, ça ne l'est plus. D'abord parce qu'il y a un côté novateur quelque part qui disparaît. Guibert, c'est pas la première fois qu'il utilise un peu ce procédé, donc il y a plus ce côté surprise. Et voilà, moi je dois bien dire que, en tout cas dans ce livre-là, je trouvais que les dessins de Guibert étaient franchement pas terribles, pas très intéressants. On a un peu parlé de la maquette avec Nicolas, enfin on va peut-être en reparler, mais je trouve que la couverture est.
Ne donne pas très envie. Moi, c'est mon gros reproche au bouquin, parce qu'il y a déjà.
La maquette,
à la limite,
ratée,
une photo
quoi.
Aurait été plus parlante.
Quand tu vois la photo à l'intérieur, déjà.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc là, il y a quelque chose que je trouve qui fait que le bouquin est raté pour moi. Alors qu'il a en termes de contenu vraiment pas mal d'intérêt, comme on le disait au début, je crois, comme tu le disais Nicolas, c'est pas unidirectionnel, c'est-à-dire qu'à certains moments, Guibert, enfin, il y a des textes où il y a des solutions, il y a des idées, il y a des choses qui sont proposées, donc il y a des mises en perspective. Ce n'est pas uniquement comme ça une sorte de chapelet sur la victimisation des Roms, etc. Donc il y a vraiment des choses intéressantes, mais le bouquin donne vraiment pas trop envie de
la
lire.
Maquette.
La maquette en tout cas, et la manière dont c'est construit.
Il y a des moments, par exemple, je trouve, il y a une scène où Alain Keller va prendre une photo d'une femme qui est dos à nous, et à la page suivante, on a cette photo qui apparaît en grand, et je trouve que ça crée des impacts. J'ai le sentiment parfois que le dessin très dépouillé et la façon dont Guibert va dessiner la scène, va présenter, est là pour aussi augmenter l'impact de la photographie. C'est-à-dire que il est là, on voit cette femme de dos avec ses cheveux, et puis quand on la découvre, la photographie, donc prise de face de cette femme, qu'on découvre son regard, son visage, il y a quelque chose qui se passe vraiment. J'ai l'impression que parfois dans la mise en scène, il y a quand même une volonté de rendre les photos plus impressionnantes, parce qu'elles sont impressionnantes, mais de leur donner d'autant plus d'impact que d'un coup le regard va apparaître, et qu'en jouant sur sa mise en scène et son dessin, Emmanuel Guibert aide à renforcer parfois visuellement certaines choses.
Moi, je ne remets pas en cause la présence du dessin. C'est vrai ce que tu dis, mais dans sa manière de dessiner, je trouve qu'il donne les mêmes informations, quasiment.
Moi, je ne trouve pas. Je trouve que justement, il donne peu d'informations, et que les informations qu'il choisit sont permettre de, d'accrocher le récit. Et puis aussi l'identification, son type de dessin qui est très épuré permet aussi un rapport qui est plus... où on rentre facilement avec Alain Keller, qu'on ne voit jamais lui en photo, qui reste... C'est comme Joe Sacco qui se dessine pendant tous ses albums avec des lunettes blanches. Enfin, on ne voit jamais ses yeux parce qu'il veut que les gens se mettent... mettre leur regard à eux dans ces fameuses lunettes blanches et qu'effectivement on devient parce que au travers du dessin et au travers de la façon dont est dessiné Alain Keller tout au long de l'album, c'est nous qui nous projetons au travers de cette ligne claire à la place d'Alain Keller. Nous on devient Keller et c'est peut-être cette porte d'entrée là, c'est-à-dire que on devient celui qui prend les photos, enfin, on devient celui qui tient l'appareil. Et que c'est ce que permet la bande dessinée et ce que permet le dessin. Et ce type de dessin-là, c'est que nous devenons, on devient Alain Keller qui voit ces choses. Quoi. Et ça nous permet de passer de nous impliquer différemment dans le récit. Enfin, qu'un simple album, ça avait été ce bouquin avec que les photographies, avec une légende pris en Europe de l'Est, village Rome, les photos auraient été impressionnantes, mais il n'y aurait pas eu de... C'est aussi le parcours, c'est Alain Keller qui raconte ses choix, parce qu'il n'aime pas filmer, photographier la misère, mais d'un côté, il y a plein de réflexions en plus sur le travail de photographe. Et je trouve ça aussi intéressant, et c'est ce qu'apporte ce type de narration aussi, c'est les... parce que ça crève le cœur, il se fait casser un bras, il y a des moments où ça dérape, et tout ça, je trouve que c'est porté par le récit, et qu'on le vit d'autant plus, peut-être, parce que, moi, je l'ai vraiment vécu de façon très directe. Je sais que, après en avoir discuté avec d'autres, qu'ils ont été plus... qu'ils étaient encore plus pris par cette histoire que par le photographe, justement, que ça, ils étaient totalement absorbés par... Et je me demande si, justement, graphiquement, dans le choix graphique de Guibert, il n'y a pas ce côté d'être... finalement, on est absorbé, on devient un des personnages. Il y a une identification assez forte, à mon sens, qui a marché sur moi, en tout cas.
Ok. Voilà, donc chacun...
Et juste signaler la sortie de TMLP. Ta mère la pute.
Ta mère la pute.
De Gilles Rochier, ouais. Chez 6 pieds sous terre, qui est une vraie claque.
Mais on en parlera le mois prochain.
Ouais, on en parlera le mois prochain, mais qu'on ne va pas attendre un mois pour inviter les gens à aller acheter ce chef-d'œuvre.
Voilà.
Donc voilà.
On peut le signaler, mais.
Le morceau qu'on va passer maintenant.
Non, on ne va pas passer de morceau, mais non, Johanna, on va parler des derniers dinosaures.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Voilà.
On peut juste introduire quand même le morceau d'après, parce qu'il est lié à cette rubrique, quand même.
Ah oui,
d'accord. Oh là là, t'es vraiment paisible. Allez, on n'aurait pas dû te prendre dans l'émission.
Allons-y, Johanna, allons-y.
Je vais rentrer chez moi. Non, le prochain morceau qu'on passe, après avoir passé les derniers dinosaures, est une collaboration entre DJ Click et Ron Artner. Ron Artner, c'est la l'égérie de... Ça y est, j'ai un trou.
De Gilles Rochier.
Mais non, c'est lui qui a fait Gadget Dilo, mais voilà, ça va pas me revenir tout de suite.
Tony Gatliff.
Voilà, merci.
Oh oui, lien avec les rames.
Mais oui, mais c'est audacieux. Ça, c'était fait exprès.
D'accord, ok.
Donc voilà, mélange électro de Zigane, et est-ce que j'en reparlerai tout à l'heure, à la fin de la rubrique paysage, un peu plus longuement de cet album.
Voilà, on en reparle juste
l'oreille,
après.
C'est un peu lié à ce qu'on vient de dire.
Parce qu'on va encore rapidement parler, par contre, quand même rapidement, des derniers dinosaures, première... production d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle 2024, un bouquin de Didier Decalant et Donatien Marie. Et c'est Johanna qui voulait, principalement en tout cas, lancer la discussion sur ce livre. Nous enchaînerons pour la suite.
Voilà. Quand je suis revenue de Montreuil avec ma sélection de livres, en fait, il y avait celui-là, mais on l'a gardé pour maintenant. Voilà. C'est le premier livre des éditions 2024 qui a été fondé par deux jeunes illustrateurs strasbourgeois. Donc c'est le premier livre, le deuxième devrait pas tarder à sortir. C'est assez atypique, c'est pas de la bande dessinée traditionnelle. Déjà, c'est plus texte-illustration, c'est de la gravure sur bois, c'est en trichromie. Et alors c'est assez rigolo parce qu'il y a un texte, donc Donatien Marie c'est un jeune illustrateur, et puis Didier Decalant c'est la personne avec qui il a collaboré pour écrire le texte. C'est un pastiche scientifique sur la fin des dinosaures. Moi, je trouve que ça fait très Shadok, Claude Pieplu. On a mis une petite vidéo sur notre blog, d'ailleurs, par rapport à ça. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour un premier livre, donc hormis le texte qui est assez rigolo et les gravures qui sont vraiment belles, j'aime beaucoup le fait que c'est un livre très soigné, c'est un grand format, c'est assez beau, donc la couverture c'est...
Un grand cartonné avec un peu de gaufrage et de la dorure et de l'argenté sur la couverture.
Un peu de dorure, c'est très soigné et je trouve que dans l'ensemble, le site des éditions 2024, c'est un beau petit site tout simple, c'est très chouette. Il y a beaucoup de presse pour ce livre, donc je me dis que derrière, il y a les gens qui tiennent cette boîte font un beau travail. À l'intérieur du livre, il y a une petite lettre au lecteur, donc il joue vraiment sur le côté un peu vieux, quoi. C'est un peu vieille typo, un peu un papier un petit peu jauni. Lettre au lecteur, et c'est très chouette, donc il présente très rapidement et très sobrement la maison d'édition. Il présente les auteurs, il parle de la technique, il présente le futur livre, et voilà, quoi. Il y a eu une exposition apparemment à Angoulême, en fait, de ce livre. Et donc, je me dis...
Pas, on était avec Vincent et Johanna...
Oui, non, vous avez la fête ici, en fait. Et donc, je me dis, waouh, quel travail, quoi. Pour une maison qui démarre, je trouve que c'est très soigné et très bien, quoi.
Aussi bien dans le fond que, dans la forme, il y a une fantaisie comme ça et une qualité qui se dégage de tout ça. Et ça, on voulait...
Et c'est un peu à mettre entre toutes les mains, en fait. Hein, parce que, en parler. Je pense que même... un gamin, ça peut le faire rigoler parce que le texte est vraiment, vraiment sympa.
Ça fait penser que dans la collection 24 de l'employé du mois, qui va sortir incessamment, il y aura bientôt un récit de Bulu qui avait donné lui aussi quelques explications sur la disparition des dinosaures.
Voilà, peut-être l'occasion de refaire une thématique sur les macrosauriens. Moi, j'ai beaucoup aimé dans le livre les parties justement sur les hobbies des macrosauriens, donc qui font des bacchanales, qui organisent un carnaval, toutes des choses qui sont vraiment le respect des anciens, des choses assez marrantes, assez chouettes, et donc voilà, qui font de ce bouquin qu'on trouve finalement pas facilement dans les librairies, donc vous serez peut-être obligé de le commander, en tout cas dans un premier temps.
Mais je crois qu'en France, il est assez bien.
Ah, en France, sans doute, en Belgique, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc voilà, merci Johanna pour cette découverte. Alors nous allons écouter Ron Hartner et DJ Click, alors, dont Johanna nous a parlé juste avant. C'est parti. Thank you.